La dernière partie de la grande table. Caroline Brouet, c'est à vous.
Bonjour Jean-Louis Bourlange.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes essayiste, ancien député européen, intervenant régulier de l'émission L'Esprit Public, le dimanche matin sur cette même chaîne. Vous avez signé, parmi les derniers ouvrages que l'on vous doit, un livre en 2015 chez Stock qui avait pour titre « Le diable est-il européen ?». Peut-être que ce titre, nous allons nous en servir aujourd'hui.
Le titre est éternellement actuel.
C'est un peu ça. Pour vous interroger aujourd'hui à nos côtés, nous avons proposé au philosophe Mathieu Pottebonneville de nous rejoindre. Bonjour à vous Mathieu.
Bonjour.
Je voudrais reprendre la question laissée en plan par l'invité du journal, par Michel Barnier. Il a parlé de bouillonnement de propositions et de polémiques depuis 48 heures, même 72 heures maintenant, qu'on a eu les résultats du Brexit. Et Michel Barnier disait, ce bouillonnement de propositions et de polémiques me fait réagir parce que j'ai l'impression qu'au moins, voilà quelque chose de positif au milieu de ce désordre, de cette confusion, c'est que on parle de l'Europe, même en France, alors que jusqu'à présent, l'Europe était un non-sujet, était un impensé. Est-ce que vous êtes comme lui, Jean-Louis Bourlange? Est-ce que vous pensez que ce regain d'intérêt pour l'Europe, cette prise de conscience, est quelque chose qui peut sortir de bon de ce qui s'est passé vendredi dernier?
Je ne sais pas, je suis partagé entre deux sentiments. Le premier, c'est que je pense que l'agenda européen, on peut l'appeler comme on veut, est absolument au cœur de toutes les échéances principales, y compris les échéances présidentielles. C'est le choix fondamental actuel. On voit bien d'ailleurs que ça se polarise entre le Front National d'un côté qui le refuse absolument, et puis en réalité les centristes, qu'ils soient des centre-droits avec Juppé ou de centre-gauche avec Macron, et puis on marginalise tout un tas de gens à côté. Et donc c'est un choix fondamental. Et en même temps, ce choix fondamental donne lieu à un bouillonnement, je crois que le mot est assez heureux, et à un bouillonnement de caractère brownien. Parce que, il me semble que depuis 20 ans, je peux dater, c'est au moment où les eurosceptiques ont pris le pouvoir partout en Europe, depuis 20 ans, on est dans une espèce de bouillie conceptuelle où plus personne ne sait ce que c'est que l'Europe. Alors moi, je suis un homme du centre, je n'ai pas l'habitude de citer l'auteur que je vais citer, mais je pense qu'il faut, comme disait Louis Althusser, porter au sein du désordre empirique la rigueur inaltérable du concept. Et quand on aura des concepts un peu plus clairs, on cessera de dire n'importe quoi sur le déni de démocratie, le déficit démocratique, la confusion générale, alors qu'on n'a aucun modèle analysé, clairement posé sur la table entre de démocratie participative, de démocratie représentative, de démocratie directe, de démocratie fédérale ou de démocratie unitaire. Tous ces concepts sont tourneboulés, sont choquants, se choquent les uns les autres, s'entrechoquent, sans que personne n'y comprenne rien. Et je pense que ça explique ce désarroi et largement à l'origine de ce sentiment d'hostilité d'une grande partie de l'opinion française et européenne.
Antoine Mercier.
Mais la faute à qui quand même cette confusion? Parce que c'est ça le problème. Est-ce que si les concepts étaient si clairs que ça à Bruxelles, est-ce que ça n'apparaîtrait pas?
Non, c'est pas. Écoutez, alors ça, si vous croyez que l'Europe se fait à Bruxelles, elle se fait à Bruxelles quand les chefs d'État et de gouvernement se réunissent à Bruxelles. Alors localement, ils sont à Bruxelles. Mais alors s'il y a une chose qui est claire depuis 20 ans, c'est il y a 20 ans, vous avez, je ne sais pas si vous avez observé ça, mais il s'est passé en Europe que tous les euro-fervents, c'est-à-dire Mitterrand, Delors, Balladur, qui était plus euro que fervent d'ailleurs, Barre, Giscard, les démocrates chrétiens italiens, les démocrates chrétiens un peu partout, Felipe González en Espagne, tous à la trappe. Kohl, bien entendu. Et vous avez une génération, vous n'allez pas me dire que Berlusconi est pro-européen. Vous n'allez pas me dire que José Maria Aznar était pro-européen. Vous n'allez pas me dire que Schröder, qui a de grandes qualités, mais quand il est venu à Paris il y a 2 ans, il a dit « Je reconnais, quand je suis arrivé au pouvoir, je n'avais pas éteint en moi toute trace de populisme. » Avec humour, il a dit cela. Bon, que vous n'allez pas... Alors que, et vous voyez bien que la démocratie chrétienne, qui était le grand parti qui portait l'Union européenne, ça a littéralement explosé dans tous les pays, et que les sociodémocrates sont eux-mêmes entrés en crise profonde, contestés sur leur gauche par toutes les formes d'indignation et, je dirais, asséchés sur leur droite par les libéraux. Et les libéraux eux-mêmes sont devenus plus thatchériens que giscardiens. Et ces gens-là sont arrivés au pouvoir et ont décidé de ne pas sortir d'Europe. Mais ils ont décidé de ne pas avancer dans l'Europe. Et donc, on est en face d'une espèce de trou noir, de choses incompréhensibles. On a fait l'union monétaire, on n'a pas fait l'union économique. On a dit qu'on faisait de la politique étrangère, il n'y a rien qui permet d'en faire. On a détruit un système institutionnel démocratique, ça je peux le démontrer, tel qu'il était sorti de Maastricht, pour le remplacer par une merdouille infâme, qui est celle à laquelle on observe actuellement, avec confusion des responsabilités à tous les niveaux, dilution de la Commission, dualité entre le président de la Commission, le président du Conseil européen, submersion de la Commission par le Conseil européen des chefs d'État et de gouvernement, réunion tous les mois de sommets de la dernière chance, de chefs d'État qui débarquent sans rien étudier, alors qu'avant on avait des corépères, des conseils des ministres, des gars qui savaient de quoi ils parlaient. Là, les conseils, les chefs d'État gouvernement débarquent, ils ont 20 pages, avec des petits crochets, ce qui est encore ce que les diplomates n'ont pas réussi, etc. Et la réunion vise à enlever 3 crochets. Et ensuite, ils se réunissent 2 heures, ils rentrent absolument comme Don César de Bazan au 4e acte de Rublas, sans savoir où ils sont, ce qu'ils font et pourquoi ils le font. Ils sortent en faisant une conférence de presse en disant les intérêts de la France, de l'Angleterre, de l'Allemagne, de l'Italie ont été bien défendus. Et on recommence un mois plus tard. Alors, évidemment, vous pouvez dire c'est l'Europe, mais c'est pas les institutions de Bruxelles, c'est pas les institutions démocratiques, c'est cette prise, ce piratage par les chefs d'État et de gouvernement d'un système dont ils ne veulent pas, qu'ils n'aiment pas, mais dont ils n'ont pas le courage de sortir. Voilà la situation de l'Europe.
Mathieu Pot-Bonneville.
C'était précisément autour de ce mouvement brownien que j'avais envie de vous solliciter. Moi, je me souviens que dans L'homme sans qualité, qui est un des grands romans européens du XXe siècle, le héros Ulrich se balade avec 2 dossiers sous le bras, l'un intitulé « En avant vers » et l'autre « Revenons à ». Il collecte les propositions de ses contemporains de cette manière-là, ce qui est évidemment une manière de se moquer de cette du caractère stéréotypé et stérile de cette alternative. Et c'est vrai que quand on voit revenir aujourd'hui la formulation « est-ce qu'on va vers une Europe fédérale des nations ou vers un fédéralisme européen, etc. », on a le sentiment du même genre de répétition
l'Europe
figée,
des peuples,
en fait.
L'Europe des peuples aussi, beaucoup.
Figée.
La Cacani, ça marchait quand même mieux que ce qu'il y a eu après.
C'est vrai. C'est vrai, cela dit, voilà, la question c'est à quelles conditions, selon vous, est-ce qu'il serait possible de poser le problème autrement? Parce que l'un des malaises auxquels on a affaire tout de même depuis longtemps, vous disiez que la question européenne serait au cœur de l'agenda des prochaines échéances, mais elle était déjà au cœur de la dernière échéance. François Hollande s'est fait élire en indiquant qu'il irait renégocier
Il s'est fait élire sur ce plan-là, sur une fraude intellectuelle. Parce que c'est un pro-européen qui a essayé de garder dans son escarcelle l'ensemble de l'électorat du non de 2005. Il a d'ailleurs très bien réussi électoralement, mais le prix à payer a été la contradiction politique dont il n'est jamais sorti.
Mais alors, quelles seraient les clarifications à opérer précisément?
Écoutez, je suis quand même frappé par l'ampleur du mouvement. Je ne suis pas du tout de ceux qui disent, c'est simplement des trucs superficiels, de l'ampleur du mouvement de ressac. Nous assistons, mais pas seulement européens. Ce qui se passe aux États-Unis actuellement est de même nature. Bien sûr, c'est pas la même chose. Ce qui se passe en Italie, où on voit quand même le parti de Pepe Grillo, de Cinque Stelle, ça me rassure pas tellement. Hein. Moi, mes copains, ce sont des gens comme l'État, comme des gens du centre qui ont essayé de faire des Aldo Moro. J'avais une grande fidélité pour Aldo Moro. C'est des gens qui ont essayé de toutes les valeurs de l'après-guerre ont été des valeurs extraordinairement positives. Il faut se rappeler que ce qui s'est passé depuis 1950 est ce qu'il y a eu de mieux dans l'histoire politique de l'Europe. On a eu une politique de la paix, une politique de la compréhension entre les peuples, une politique de la raison, une politique de l'humanisme, une politique du respect des autres, une politique de croissance économique fondée sur la liberté d'initiative et sur la solidarité et le partage des richesses. Ceci, c'était formidable. Et qu'on ne me dise pas que l'Europe n'était pas démocratique, c'est de la blague tout ça. Les peuples ont soutenu cela parce qu'ils y ont vu la paix, ils y ont vu la croissance. Ensuite, ça s'est dégradé pour des raisons très profondes. Alors, je ne vais pas les énumérer.
Quelques-unes, vous pouvez.
Oui, non, mais je vais les énumérer, mais je ne vais pas les développer. C'est la mondialisation. La mondialisation, c'est un problème. Le problème, c'est que ce n'est pas une option. C'est une figure imposée. Mais c'est évidemment un défi fondamental aux droits acquis, une menace de réduction, d'augmentation des inégalités, tout un ensemble de choses et une difficulté très différente de positionnement pour les gens d'en haut qui s'adaptent bien et les gens d'en bas qui s'adaptent plus difficilement. Donc c'est dur. Ensuite, la disparition du débat idéologique. le socialisme réel, comme on disait du temps de l'Union soviétique, a disparu. Et du coup, on ne pose plus aux gens la question de ce qu'ils pensent. On le pose la question de ce d'où ils viennent. Donc on s'est enraciné dans des logiques identitaristes qui d'ailleurs prennent au piège ceux qui les invoquent. Parce que ceux qui invoquent l'identitarisme britannique se retrouvent pris au piège de ceux qui invoquent l'identitarisme écossais. Donc on est dans un système très profondément malsain. Alors pour, et tout cela n'a pas été géré. Alors pour répondre précisément, brièvement à votre question, je crois que, comme le soleil et comme la mort, l'Europe doit se regarder en face. Alors c'est très difficile, Héraclite et La Rochefoucauld l'ont dit successivement, mais c'est quand même ça qu'il faut faire. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire se poser quand même des questions assez simples. Quel est le territoire européen? Qu'est-ce que nous avons qui nous distingue des autres? Comment nous pouvons fonctionner démocratiquement? Alors la réponse, c'est la démocratie. Qu'est-ce qui nous permet de fonctionner ensemble? C'est la démocratie et la supranationalité. Qu'est-ce que nous voulons exercer ensemble et ne plus exercer séparément? Là, on ruse avec tout ça. Personne ne le dit clairement. Et troisièmement, quelles sont les modalités d'une démocratie qui est nécessairement une démocratie, c'est-à-dire une démocratie à plusieurs démos et qui donc ne peut pas ressembler à nos démocraties nationales parce que le problème se pose autrement.
France Culture, La Grande Table, Caroline Brouet.
Faut-il refonder l'Europe? Et si oui, comment? Nous posons la question aujourd'hui à Jean-Louis Bourlange, ancien député européen essayiste, autour de la table pour l'interroger à nos côtés, Antoine Mercier et moi-même, Mathieu Pot-Bonneville, qui est philosophe. Mathieu.
Oui, au chapitre des pièges conceptuels, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un piège autour de la notion même, de la manière dont la notion de construction européenne a été maniée dans le débat public? Je veux dire par là que pendant des années, le débat n'a pas été de savoir quelle Europe on voulait, mais si on était pour ou contre la construction européenne. Autrement dit, à la question des alternatives politiques relatives à l'Europe, s'est posée l'idée d'un processus inéluctable qui devait aller plus ou moins vite. D'ailleurs, la question du rythme revient ces temps-ci de manière obsédante. Rythme pour lequel ou contre lequel on était, c'était au fond la roue de l'histoire. Est-ce que ce dispositif-là, qui avait quelque chose d'un dispositif idéologique, parce que au fond, sous la notion même de construction européenne, les différents protagonistes mettaient des choses différentes. Est-ce que ce dispositif-là n'a pas, au fond, trop bien réussi? Est-ce qu'on n'a pas, ces jours-ci, ces mois-ci, des gens qui disent « Ah bon, la question n'est pas politique, c'est de savoir si on construit l'Europe. » Eh bien, cessons de la construire. Est-ce qu'il ne serait pas temps de réintroduire des questions d'alternative politique, d'alternance politique, plutôt que le débat pour ou contre la construction européenne, dont on voit bien qu'un certain nombre d'électeurs répondent aujourd'hui, eh bien, contre?
Oui, c'est une question très très fondamentale que vous posez et à laquelle il est très difficile de répondre, mais qui est une question parfaitement légitime. Alors, sur le premier point, c'est-à-dire est-ce qu'il faut être la construction, est-ce que la construction est inéluctable? Moi, j'ai jamais pensé qu'elle était inéluctable. Ce qui m'a frappé, c'est la combinaison d'une démarche cyclique et d'une démarche d'inéluctabilité. C'est-à-dire que d'un côté, on a bien vu que pas à pas, l'Europe se renforçait, se progressait sur le plan des échanges, de l'économie, de la libre circulation, de l'imbrication de nos sociétés, et servie pas seulement par des appareils institutionnels et des lois et des mécanismes juridiques, mais par la technologie, etc. Donc on a tout cela. Et en même temps, on voit bien que sur le plan politique, le mouvement européen depuis 1950 est un mouvement cyclique. Vous avez des départs économiques en triomphaux et des arrivées politiques en catastrophe. Vous avez le lancement de la CECA en 50 et l'écrasement de la CED en 54. Vous avez le lancement du traité de Rome en 57 et vous avez l'échec du plan Fouché puis la crise de la chaise vide par le général de Gaulle. Vous avez le lancement de l'arrivée de la Grande-Bretagne dans le marché commun et qui aboutit quelques années plus tard au marché intérieur et vous avez le balbutiement en Yougoslavie. Vous avez le lancement réussi de l'union monétaire et vous avez l'incapacité à gérer à fabriquer une politique économique commune. Et ça, c'est extrêmement grave, et c'est une faiblesse fondamentale qui tient à quoi? Qui tient aux réalités, à la réalité qu'on peut se demander, et c'est pour ça que la première question est quand même fondamentale, on peut se demander si les gens veulent vraiment adopter une démarche européenne. Qu'est-ce que ça veut dire, adopter une démarche européenne, au bout du bout? Ça veut dire, est-ce que je fais confiance, moi, Français, aux autres pour obéir à une décision à laquelle peut-être j'ai pris part, mais sur laquelle j'ai été battu. Est-ce que j'ai suffisamment confiance dans le groupe que nous formons ensemble pour me soumettre à cette loi? Et ça n'est pas évident. Et il est évident donc c'est de la fabrication du loyalisme qui est important. Et c'est pour ça que je crois que le modèle démocratique doit s'inspirer beaucoup plus du modèle Montesquieu ou du modèle américain que du modèle rousseauiste de démocratie de confrontation majoritaire. Mais ça, c'est un aspect. Mais voyez, c'est ça qui est en cause. Alors, la seconde question, c'est que quand même, moi, la pensée unique, c'est vrai que je pense que dans toute... Olivier Guichard, qui était un vieux sage gaulliste, disait « on ne change pas de société comme on change de bicyclette », c'était assez juste. En réalité, il y a effectivement un culbuto idéologique dont on ne s'écartera pas sans révolution. Et ce culbuto, c'est quelque chose qui se situe entre Delors, Macron, Rocard d'un côté et Juppé, Bayrou et quelques autres de l'autre. Et c'est ça. L'Occident fonctionne comme ça depuis 1945. Ça provoque des gens. Alors vous avez des gens qui sont très contre, hein, Badiou, etc. Vous avez tout un tas de gens. Le péniste. Mais c'est quand même là que ça se situe. Et les accords politiques. Ça ne veut pas dire qu'on détruit le droit de gauche. Ça veut dire qu'on module différemment la solidarité et la liberté. Mais ça veut dire qu'on n'aura pas cette confrontation bipolaire, majoritaire. Je crois que l'ère de l'interrupteur est terminée. Nous sommes arrivés au modulateur de lumière.
Oui, mais la question, enfin, le problème, c'est que ce débat-là, spécifiquement, a échoué à se mettre en scène comme débat politique ces dernières années. Je veux dire par là que...
Vous avez raison.
Tous les gens qui sont passés par le Parlement européen, je me souviens de Jacques Toubon disant combien le passage par le Parlement européen changeait entièrement les polarités, la manière de se représenter l'espace politique, etc. Mais cet espace politique que vous décrivez, il n'est pas perçu, considéré, mis en scène, il ne s'est pas approprié dans le débat public comme l'est le débat droite gauche.
Vous avez tout à fait raison sur le fait que ce qu'on fait en Europe ne passe pas du tout. Aucun médiateur, nous sommes en logique lévi-straussienne, bachelardienne, etc. La structure du débat n'est pas celle-là en France et n'est pas celle-là dans les partis, dans certains pays politiques. Il reste que c'est quand même le débat pertinent et on le voit bien en France. On a quand même l'air de gros malins actuellement avec cette droite-gauche qui ne correspond à rien, puisque le vrai clivage, il est plutôt entre l'aile droite de Sarkozy et l'aile gauche de Juppé, et il est plutôt entre l'aile droite de Hollande, c'est-à-dire Macron, et l'aile gauche de Hollande, c'est-à-dire Aubry, puis au-delà les frondeurs, les communistes, etc. Donc le clivage pertinent actuellement n'est pas celui qui correspond aux droites-gauches. Il y a beaucoup plus de distance entre Macron et Besancenot qu'entre Macron et Bayrou. Notre configuration politique ne rend pas compte de ça.
Alors c'est quoi vous avez parlé de choix fondamentaux pour 2017. Nous y sommes pratiquement, la campagne commence sur ces thèmes. Quels sont ces choix fondamentaux d'un côté, de l'autre, peut-être une troisième solution.
Je suis obligé d'être simple.
Hein, oui, c'est pour ça que je pose la question.
Je crois qu'ils ont été très bien définis par Marine Le Pen. Quand elle a dit la polarisation actuellement, c'est pratiquement entre le centre et le Front National. Alors vous pouvez mettre du côté du Front National Mélenchon, etc. Enfin, ça peut se discuter. C'est pas tout à fait la même chose, bien sûr. Sur les étrangers, encore que Mélenchon donne des signes inquiétants de sensibilité à des thèmes qui n'étaient pas les siens jusqu'à présent. Mais ce qui est certain, c'est, bon, pour être très sommaire, c'est ce que disait Raymond Barre. Libéral, social, européen. Quelqu'un comme Danny Cohn-Bendit, avec lequel j'ai beaucoup travaillé et aimé travailler au Parlement européen, et quelqu'un qui disait d'ailleurs sur cette chaîne, si je me rappelle bien, qui disait « le libéralisme c'est un tout ». Vous ne pouvez pas séparer le libéralisme économique, qui n'est pas l'ultralibéralisme. L'ultracapitalisme est monopolistique, il est cartélisateur, il n'est pas du tout libéral. Libéralisme économique, libéralisme politique, libéralisme culturel. C'est donc, vous avez libéral, social, européen.
Face à...
C'est une société... Bah, c'est fondamental.
Oui,
une société
face à quoi, ouverte. Face à quoi, le choix?
Face à autoritaire, sous toutes les formes, autoritaire. Alors, vous avez des formes d'autorité politique, culturelle, évidemment...
Mais là, vous écartez la question de la souveraineté, qui semble quand même une question centrale. Écoutez, ceux qui sont pour une souveraineté nationale, dans le cadre à partir de laquelle on construit l'Europe...
Écoutez, regardez ce qui se passe. Moi, je veux bien qu'on me dise que l'Europe est en crise au nom de la souveraineté, mais ce que j'observe, c'est que la crise est absolument parallèle. Et là, alors, l'exemple de ce qui s'est passé depuis vendredi est fantastique de ce point de vue-là, entre la crise intérieure de l'Union européenne et la crise des États nationaux. La crise du Royaume-Uni progresse exactement parallèlement à la crise de l'Union européenne. En Espagne, vous avez la même chose. La Belgique est disloquée. La Yougoslavie a volé en éclats. La Tchécoslovaquie, deux créations de la diplomatie française, hein, la Tchécoslovaquie et la Yougoslavie entre les deux guerres. Tout ça a volé en éclats. La France elle-même, on a quand même des problèmes assez graves avec la Corse, hein, et qui sont pas en voie de solution. Bon, on a donc, en réalité, ce que montrait très bien Vedel dans un article célèbre des années 70, c'est qu'en réalité, cette notion de souveraineté est une notion à géométrie variable. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est une revanche du « small is beautiful » sur tout le reste. Plus c'est petit, plus on est à l'aise. Ça donne la préférence pour la nation à la française sur l'Europe, la préférence pour la nation ethnique sur la nation à la française, la préférence pour la région sur la nation, et même en Alsace, la préférence pour le département du Bas-Rhin et du Haut-Rhin sur l'Alsace, sur le plan à l'intérieur des crispations, des solidarités qui s'organisent sur un plan religieux, sur un corporatisme religieux, le mariage... La manif pour tous, le mariage pour tous, avec les drapeaux, etc. Les corporatismes administratifs. Vous avez une fragmentation générale de l'espace public liée au progrès de l'individualisme, dont l'Europe est la première et la plus emblématique victime, mais dont elle n'est pas loin de là la seule victime.
Mathieu Podbenneville.
Je serais loin de considérer que toutes les références à la communauté se valent à cet égard et que la manif pour tous et le mariage pour tous soient deux formes de communautarisme égales. Parmi les questions sur l'agenda, vous disiez tout à l'heure que parmi les questions simples dont on devrait qu'on devrait prendre en compte, il y a la question du territoire. La question c'est, est-ce que c'est une question aussi simple que ça? Je veux dire par là que si l'Europe aujourd'hui se détricote, et si l'Europe aujourd'hui s'alarme, c'est essentiellement dans la gestion des marges de l'Empire que le problème se pose. On évoquait tout à l'heure dans le journal la nécessité, je crois que c'est Nicolas Sarkozy qui évoque la nécessité de rompre immédiatement les négociations avec la Turquie. Le rapport que l'Europe entretien aujourd'hui avec la Turquie est particulièrement significatif à cet égard. C'est-à-dire qu'on tolère l'autoritarisme d'Erdogan pour autant que la Turquie aide à gérer les flux de réfugiés qui arrivent de l'autre côté.
Madame Merkel fait ça et les gouvernements font ça, c'est tout. C'est des gouvernements opportunistes qui n'ont aucune exigence vis-à-vis de la Turquie. Le Royaume-Uni a d'ailleurs changé complètement de politique parce que ce qui est amusant, c'est que le Brexit est un démenti complet à la politique de Margaret Thatcher. Margaret Thatcher était pour la liberté absolue de migration, parce qu'elle voulait faire baisser le coût du travail. Elle était pour l'élargissement absolu de l'Europe, l'ouverture à la Turquie, parce qu'elle voulait tuer l'Europe fédérale. Et elle était pour le marché intérieur. Ce sont les trois choses qui sont mises en cause par les auteurs du Brexit. Farage contre Margaret Thatcher, c'est une dimension qui n'a pas été tellement soulignée et qui me paraît importante. Sur la phrase sur la périphérie de l'Empire, si vous me dites que les gouvernements... Moi, je ne me sens pas représenté par les gouvernements. Je vois que ce sont des gens qui gèrent à la petite semaine, des agendas. J'ai été très solidaire de Madame Merkel, non pas dans sa communication que je trouvais vraiment créatrice de crise, mais dans son fond, quand elle a dit que nous étions tenus par les engagements internationaux à accueillir les demandeurs d'asile sans quotas, sans limites, etc. Elle avait parfaitement raison. Elle aurait pu le dire de manière moins provocatrice pour pas susciter des crises maximales avec les Hongrois, les Polonais, etc. Mais elle avait raison. Mais je vois qu'en six mois, elle a complètement changé d'idée. Et que, pour des raisons de politique intérieure, elle a négocié avec Davutoğlu, qui en plus a été démenti par Erdogan. Donc tout ça ne signifie rien. Mais une chose est certaine. Moi, je récuse le nom d'Empire. Mais les géopoliticiens disent toujours que quand la périphérie craque, c'est que le centre est fragile. Et le vrai problème, c'est de savoir si les Français et les Allemands, parce que c'est quand même le cœur initial de l'Union européenne, si les Français et les Allemands partagent encore une représentation commune de leur avenir. Ça n'est pas gagné.
Précisément, Jean-Louis Bourlange, puisque rien n'est fait, puisqu'on ne sait rien, puisqu'on est presque devant une page blanche, vous disiez que à partir de là, on peut en profiter pour réfléchir enfin à quelle Europe on souhaite.
On doit en profiter, mais je pense qu'on n'en profitera pas. C'est un sursaut.
On est presque obligé d'y réfléchir. Certains parlent d'un nécessaire ajustement de la part des dirigeants, d'autres vont beaucoup plus loin. On peut le voir comme une opportunité, en tout cas, comme un nécessaire sursaut, une prise de conscience. Est-ce que pour vous, cela passe par la redéfinition d'un noyau dur, ou bien réfléchir à une autre Europe à 27 maintenant? Ou est-ce qu'il faut se recentrer, parce qu'on a dit aussi quand même qu'à 28, c'était vraiment très très difficile d'avancer, de faire l'Europe des peuples, de faire une Europe politique. Comment voyez-vous les choses?
Le problème du nombre n'est pas le problème essentiel. Le problème, c'est le centre. Et c'est d'abord un problème de temporalité. Il faudrait peut-être qu'on se mette à réfléchir. Nous avons des chefs, des personnels politiques, et d'ailleurs des opinions publiques, et reconnaissons-le, des médiateurs, des journalistes, qui vivent dans une espèce d'instantanéisme, c'est pour ça que j'ai parlé de mouvement brownien au départ, d'instantanéisme permanent. Nous avons besoin de revenir à l'essentiel, nous avons besoin de nous interroger, quelle est notre politique migratoire ? Moi, je crois que nous devons à la fois combiner nos responsabilités en matière de droit d'asile et être très vigilants sur les mutations économiques et s'attacher plutôt à ce que les élites des pays africains ou autres, en cas de migration économique, restent dans leur pays et soient en mesure de contribuer à son développement. Ça demande une politique très ajustée, très intelligente, très modérée. Pas du tout ces espèces d'embardées spectaculaires à la Sarkozy qu'on observe actuellement.
Donc il faudrait une assemblée délibérative invitant des chercheurs et des politiques qui ont le temps en dehors des lois.
Il faut d'abord élire des dirigeants qui réfléchissent. Moi, je dois dire que je voterai pour un candidat, mais ce sera peut-être pas élu. En général, le candidat pour lequel je vote n'est pas élu. Je me garde bien de dire son nom, mais je crois que c'est important de trouver le temps et d'approfondir, de trouver des cénacles de réflexion d'intellectuels tout court, d'intellectuels organiques, comme dirait Gramsci, d'hommes politiques qui approfondissent, qui s'envisagent au lieu de se dévisager, comme dirait Jean Cocteau. C'est ça qui manque. Et surtout qu'on ne rentre pas dans cette espèce de frénésie en disant on va relancer l'Europe, dans 8 jours ce sera le tout fédéral ou tout je sais pas quoi. Ça n'est, il y aura rien qui marchera comme ça. Il faut retrouver, comme dirait Kundera, le sens de la lenteur.
Mathieu. Oui, je prends mon temps pour dire Mathieu.
Jean-Louis Bourlange, quand on regarde les cartes du Brexit, les cartes électorales du Brexit, on est frappé, beaucoup de commentateurs l'ont noté, d'une part par la division en termes d'âge, c'est-à-dire que les jeunes étaient plutôt favorables et ce sont les plus âgés.
Contraire de la France, c'est impressionnant.
Et d'autre part, la représentation des classes populaires et des milieux populaires dans le vote pour le Leave. On est tenté d'en tirer une conclusion assez simple, qui est qu'au fond, l'Europe a échoué à se présenter comme davantage porteuse d'opportunités et a échoué à se présenter comme protectrice. Au fond, ce vote, moi, je serais tenté de l'interpréter comme l'échec d'une Europe protectrice et avec elle, l'échec d'une Europe porteuse d'opportunités. Est-ce que la manière dont l'Europe s'est comportée vis-à-vis des pays du Sud et les politiques d'austérité qu'elle leur a imposées n'a pas une certaine responsabilité dans cette affaire.
Jean-Louis Bourlange. Ce que vous dites serait fondé si les Anglais étaient dans ce système. Les Britanniques ne sont absolument étrangers à cette Europe économique. Ils ont raisonné dans des catégories mentales et politiques totalement différentes. Ils sont pas concernés par l'euro, ils sont concernés par le marché intérieur. Mais c'est ce qu'ils ont voulu, d'ailleurs, ils l'ont passionnément voulu. Et le reste, alors, si nous discutons en France, en Espagne, en Grèce, alors là, on voit effectivement, c'est très clair. On voit le grand malaise d'un certain nombre de gens, pas vécu de la même façon. À Madrid, en 2005, les classes populaires et les jeunes votent à fond pour l'Europe. En France, le même moment, 2 mois plus tard, les classes populaires et les jeunes votent à fond contre l'Europe. Parce que nous sommes allergiques au libéralisme. Nous avons un jacobinisme qui fait que le libéralisme, c'est pas notre truc. Peut-être qu'on a raison, peut-être qu'on a tort. Moi, je pense qu'on a tort, mais on peut penser le contraire. Mais en tout cas, on est très différents d'un certain nombre de gens. Mais ce qu'on voit globalement, c'est que même, on voit bien que Le Pen est gênée à l'idée de dire qu'elle veut faire sortir la France de l'euro. On voit bien que Mélenchon tourne autour de cette idée depuis très longtemps. On voit bien que Tsipras a fait un référendum dans lequel, j'avais pensé que ça se finirait comme ça d'ailleurs, que à partir du moment où il aurait le mandat en poche, il concilierait... Mais les Grecs ont dit absolument pas, on dit non à la sortie de l'euro. Les Espagnols viennent de dire plutôt non à Podemos, qui était européen, mais sur une ligne anti-austéritaire.
Moi, à chaque fois, on prévoit des catastrophes pour les sorties, et c'est ça ce qui a sans doute aussi empêché à ce qu'il y ait eu d'autres votes, en tout cas, dont on a tenu compte. Il se trouve que là, on a annoncé pour le Royaume-Uni et pour l'Europe des catastrophes.
Bon, non, est-ce on n'a rien annoncé du tout.
Si, moi, je suis, non, tous je suis les désolé.
On a vu d'horribles publicités du livre, avec des files d'attente en cas de Brimen, des files d'attente peuplées de noirs dans des hôpitaux où on voyait bien que c'était les noirs qui empêchaient la bonne vieille Miss Maple qui était sur l'affiche de se faire soigner. Et puis après, il y avait le livre qui était, alors là, vous voyez un hôpital avec que des blancs, etc., une gentille nurse qui apportait du café, etc. On a eu des trucs comme ça, on n'a pas eu.
D'accord, ça n'empêche pas que dans l'autre côté aussi.
Ils ont dit que c'était pas bon pour l'économie, c'est tout. C'est normal que Osborne et Cameron disent ça, mais ça n'a pas été un catastrophisme fondamental. Quant à Tsipras, il a fait ses choix librement.
Tout ce qu'il a quand même dit, c'était la fin de la civilisation européenne.
Je dirais l'inverse de ce que vous dites d'une certaine façon. Je dirais que c'est parce qu'il n'y avait aucun enjeu réel au Royaume-Uni, puisqu'il n'était dans rien. Il pouvait se permettre de sortir de tout sans qu'il se passe rien. Et on s'aperçoit que même en sortant de rien, il se passe plein de choses.
Vous disiez toujours, Jean-Luc Bourlange, oui. Un pied dedans, un pied dehors. Aujourd'hui, oui. C'est un pied dehors, un pied dedans.
C'est techniquement, ça. C'est comme ça, mais on voit que politiquement, ça soulève quand même un peu d'écume.
Mathieu.
Alors, j'entends bien votre raisonnement. Au fond, considérons. Qui consiste à dire que cet exemple n'est pas transposable, c'est-à-dire pour des pays qui sont effectivement dans l'Europe,
Royaume-Uni n'a jamais été transposable à rien.
Absolument.
C'est sa grande qualité.
N'empêche que du côté de l'Europe centrale et orientale, un certain nombre de pays commencent de ce côté-là à se dire qu'eux aussi ne sont pas tenus par grand-chose, lors même qu'ils en ont énormément, évidemment.
Faisons attention, parce que ça, c'est pas bien. Ce qui se passe en Hongrie et ce qui se passe dans une partie de la Pologne, c'est très inquiétant.
C'est très inquiétant.
Mais là, moi, je suis très net. Je me sens dépositaire des valeurs dont nous avons hérité de nos pères, des années 50, des années 60, de cet humanisme ouvert et solidaire, etc. Et je ne me sens pas du tout solidaire de la Renaissance, de tous ces corporatismes fascisants des années 30. Et je suis inquiet. Alors, je suis confiant dans les Polonais. Parce que je crois vraiment qu'il y a une résistance d'éléments forts, comme Mme Michnik, Wałęsa, d'autres, etc. Il y a une résistance forte de mes anciens amis polonais, qui sont des races beaucoup morts, comme Geremek, etc., à ce qui se passe. Et je pense que, mais je suis très inquiet du mauvais génie d'Orban. Moi, j'ai connu Orban. Il était formidable comme leader dans les années 90, comme capacité. Mais il a vraiment pris la mauvaise part, la mal aparté, comme dirait l'autre.
Alors, Jean-Louis Bourlange, l'inquiétude n'empêchant pas l'optimisme, pour reprendre ce que dit Dominique Moisy dans sa chronique des Échos ce matin, la chute du mur de Berlin avait traduit en 1989 le côté lumineux de la force, pour reprendre évidemment une terminologie inspirée de la guerre des étoiles. Le référendum britannique en 2016 en représente le côté obscur, ce passage de la lumière à l'obscurité est le produit direct d'une version moderne de la trahison des élites. Tout s'offre à nous, désormais. Une vision pessimiste ou une vision optimiste, vous avez voulu traduire cette alternative en musique, vous avez hésité, nous avons donc choisi pour vous, entre la vision pessimiste de l'Europe qui était la Adagietto de la cinquième de Mahler.
C'était la marche funèbre de l'Europe.
Et la vision optimiste qui est une cantate de Bach, voilà. Nous avons opté.
Mais c'était mon choix aussi. Hein.
Bon, mais oui, bien sûr, c'était choix politique, vos deux choix.
Quand j'ai réécouté Mort à Venise, parce que c'est l'air de Mort à Venise, je me suis dit que c'était vraiment la marche funèbre absolue et qu'il fallait beaucoup plus refonder sur la confiance dans une Allemagne optimiste avec Bach.
Merci Jean-Louis Bourlange d'être venu au micro de la Grande Table aujourd'hui. Merci à vous, Mathieu Pot-Bonneville. Raphaël Bourgois, Henri Leblanc, Jeanne Alléos, Clémence Marie et Lucie Aubourg font partie de cette équipe de la Grande Table. À la réalisation aujourd'hui, c'était Marie-Laure Ciboulet et à la technique, Pierrick Monsigny.